bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. À l'occasion de la parution de son 600e numéro, la RFC vous propose aujourd'hui un épisode sur les grandes dates du plan comptable général inspiré de l'article écrit par Robert Aubert, professeur agrégé, diplômé d'expertise comptable, docteur en sciences de gestion. Le plan comptable général, le fameux PCG, c'est un outil absolument central aujourd'hui en France, on est bien d'accord.
Ah oui, tout à fait. L'épine dorsale de beaucoup de comptabilité.
C'est ça. Et on a tendance à l'oublier, mais son histoire, elle est riche, elle remonte même bien avant sa première version officielle française.
Absolument. C'est une histoire assez longue et qui ne commence pas en France en fait.
Ah bon ? Racontez-nous.
Eh bien, il faut regarder à l'étranger d'abord. Il y a eu des, disons, des précurseurs, en Belgique par exemple.
En Belgique.
Oui, on peut citer Godefroy, dès 1864, puis Hotelet, en 1901, qui a pensé une numérotation décimale, et Bléron, en 1921.
D'accord. Et ailleurs ?
Et en Allemagne aussi, des noms importants. Char, en 1911, et puis, surtout, Eugène Schmalenbach, en 1927.
Schmalenbach, oui, ce nom me dit quelque chose.
Son apport est fondamental. Il a proposé un plan en 10 classes, numérotées de 0 à 9. Et ce qui était très novateur, c'est qu'il intégrait déjà la comptabilité analytique.
La compta analytique, c'est-à-dire le calcul des coûts ?
Exactement. Le calcul des coûts intégré à la comptabilité générale. C'était une vision très moderne, très intégrée pour l'époque.
Très intéressant. Donc cette idée d'un plan structuré, elle vient de loin. Et en France, alors, avant le PCG de 47 ?
Alors, en France, avant 47, c'était un peu fragmenté. Il y avait bien des essais de normalisation, oui, mais très sectoriels.
C'est-à-dire ?
Pour les assurances, l'armement, les banques, chaque secteur développait un peu ses propres règles, quoi.
D'accord.
L'épisode intéressant, mais qui n'a pas abouti, c'est le fameux plan Delmas de 1942.
Ah oui, sous Vichy.
C'est ça. Commandé sous Vichy, avec une inspiration allemande assez claire, il n'a jamais été promulgué officiellement.
Mais il existait.
Oui, oui, il a été publié en 1943. Et il était intéressant parce qu'il distinguait déjà un cadre simplifié et un cadre plus complet, avec une comptabilité des prix de revient.
Donc il a fallu attendre la libération pour avoir le vrai premier PCG.
Exactement. Le contexte de l'après-guerre, la reconstruction, tout ça a joué. En avril 1946, on crée la commission de normalisation des comptabilités.
D'accord.
Et c'est cette commission, avec André Brunet comme rapporteur général, qui aboutit à l'approbation du premier PCG en septembre 1947.
Et quelles étaient ses caractéristiques principales, ce premier plan barre ?
Alors, une structure en 10 classes, mais attention, numérotée de 1 à 0. C'était la petite différence.
Ah oui, de 1 à 0, d'accord.
Et surtout la distinction très nette, classe 1 à 5 pour les comptes de bilan, classe 6 et 7 pour la gestion chargée produit.
Classique.
Oui, et la classe 8 pour les comptes de résultats. Et puis, très important, la classe 9 dédiée spécifiquement à la comptabilité analytique.
Qui était vue comment, cette compta analytique ?
Comme un système autonome à l'époque, pas intégré comme chez Schmalenbach, mais à part.
Je vois. Mais vous disiez tout à l'heure que son application n'a pas été immédiate pour tout le monde.
Non, pas tout de suite obligatoire partout. Au début, c'était surtout lié à une obligation de réviser les bilans qui venait d'une ordonnance de 1945.
D'accord.
Et ça concernait surtout certaines grosses entités, publiques ou semi-publiques. La généralisation, elle, s'est faite plus tard.
Alors justement, parlons de cette généralisation et des évolutions. Quelles ont été les grandes étapes après 47 ans ?
Une première révision importante, c'est celle de 1957. Le cadre général reste assez similaire, mais on ajuste des intitulés de compte, on refond un peu la partie analytique.
Et autre chose en 57 ?
Oui, très important, la création du Conseil national de la comptabilité, le CNC.
Ah, le CNC, oui, l'ancêtre de l'ANC en quelque sorte.
Tout à fait. Il va devenir l'organisme clé de la normalisation pendant des décennies. Et puis, l'obligation d'utiliser le PCG, elle progresse.
Comment ?
D'abord via des comités professionnels, avec une loi en 1959. Et puis, le levier fiscal a été décisif.
Le levier fiscal ?
Oui, en 1965, un décret va lier la validité de la déclaration fiscale à l'emploi du PCG. Là, forcément, ça accélère les choses.
Oui, on imagine. Et ensuite, on saute aux années 80, c'est ça, hein, avec l'Europe ?
Exactement. Le PCG 1982, bon, qui est plutôt finalisé vers 1986, c'est une étape majeure. Vraiment.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui change ?
L'objectif principal, c'est de transposer la quatrième directive européenne, celle sur les comptes annuels.
D'accord, l'harmonisation européenne qui commence.
Voilà. Et c'est là que la structure du plan de compte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, se met vraiment en place. Ou du moins s'en rapproche très fortement.
Et il y a aussi la consolidation, non ?
Oui, juste après. On intègre la méthodologie de consolidation qui vient de la septième directive européenne. C'était devenu indispensable avec la montée en puissance des groupes.
Logique. Donc on voit bien ce double mouvement. D'abord, on structure au niveau national, puis on harmonise au niveau européen. Et à la fin du siècle, en 1999...
Alors, 1999, c'est une autre étape importante. On a un nouveau PCG, issu du règlement 99.3 du CRC.
Le CRC...
Le Comité de la réglementation comptable. Il avait pris le relais du CNC pour l'aspect réglementaire, disons.
D'accord. Et l'objectif de ce PCG 99 ?
C'était de réécrire, d'unifier un peu les règles, pour les comptes sociaux, avec le 99.3, et aussi pour les comptes consolidés, avec le 99.02.
Et un changement notable ?
Oui, l'abandon de la partie comptabilité analytique dans le plan de compte lui-même. L'idée était de laisser plus de liberté aux entreprises pour organiser leurs calculs de coûts.
Intéressant. Plus de souplesse.
C'est ça. Et ce PCG 99, il se voulait aussi plus évolutif. D'ailleurs, il a été modifié plusieurs fois ensuite.
Pour quoi faire, principalement ?
Notamment pour se rapprocher progressivement des normes internationales, les IFRS, sur les passifs, les actifs, par exemple.
Convergence, donc. Et l'organisme de normalisation a encore changé depuis ?
Oui, en 2010, création de l'ANC, l'autorité des normes comptables.
Qui existe toujours aujourd'hui ?
Exactement. Elle fusionne les rôles de l'ancien CNC et du CRC. Et c'est elle qui publie le PCG actuel, celui qui date du règlement ANC 2014-03. C'est une refonte qui remplace le 99-03 et toutes ses modifications.
On arrive presque à aujourd'hui alors. Mais l'histoire n'est jamais tout à fait finie en comptabilité, j'imagine.
Ah non, j'avais. La toute dernière grosse évolution, c'est le règlement ANC 2022-06.
Qui n'est pas encore appliqué.
Non, son application est prévue pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025. Donc c'est pour bientôt.
Et qu'est-ce qu'il change, ce nouveau règlement ?
Pas mal de choses, en fait. D'abord, une redéfinition très stricte du résultat exceptionnel. Fini les éléments courants qu'on mettait là.
Ah oui.
Il faudra que ce soit quoi, alors ?
Des événements vraiment majeurs et inhabituels. Ensuite, quelques ajustements dans le plan de compte lui-même.
D'accord.
Et puis, suppression de certains états financiers dans les modèles de base. Le tableau des sièges, le tableau de financement.
Ah, carrément.
Oui. Et donc, de nouveaux modèles de bilan et de compte de résultats. Et une présentation de l'annexe qui est refondue avec des tableaux normés obligatoires.
Ça va avoir des impacts, j'imagine. Oui, sur les comptes sociaux, bien sûr, mais aussi sur les comptes consolidés en normes françaises via un autre règlement, le ANC 2020-01. Et il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a toujours des règlements spécifiques pour certains secteurs, hein, banque, assurance.
Bien sûr. On voit donc un PCG qui n'arrête pas d'évoluer, qui s'adapte en permanence entre les besoins français, l'harmonisation européenne et maintenant cette convergence internationale.
C'est tout à fait ça. Une adaptation constante.
Et ça pose une question intéressante pour l'avenir, non ? Jusqu'où cette convergence avec les normes IFRS va-t-elle aller ? Et comment on va maintenir un équilibre avec les spécificités françaises ?
C'est la grande question. Effectivement. Et elle va sans doute animer les débats et les prochaines évolutions de notre cher PCG pour les années à venir.
La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.